Deuxième partie, livre 3, commencement de la fêlure. Chapitre 1. Lynn Tedcaster. Londres n'avait à cette époque qu'un pont, le pont de Londres, avec des maisons dessus. Ce pont reliait à Londres Southwark, faubourg pavé et caillouté avec des galets de la Tamise, tout en ruettes et ruelles, ayant des lieux fort serrés et, comme la cité, quantité de bâtisses, logis et cahutes de bois, pêle-mêle, combustible ou l'incendie à ses aises. 1666 l'avait prouvé. Southwark alors se prononçait Soudric. Aujourd'hui, on prononce Southwark, à peu près. Du reste, une excellente manière de prononcer les noms anglais, c'est de ne pas les prononcer du tout. Ainsi, Southampton, dites Subsupton. C'était le temps où Chatham se prononçait « Je t'aime ». Le Southwark de ce temps-là ressemble au Southwark d'aujourd'hui, comme Vaugirard ressemble à Marseille. C'était un bourg, c'est une ville. Pourtant, il s'y faisait un grand mouvement de navigation. Dans un long vieux mur cyclopéen sur la Tamise étaient scellés des anneaux où s'amarraient les coches de rivière. Ce mur s'appelait le mur d'Effroc ou Effrocstone. York, quand elle était saxonne, s'appelait Effroc. La légende contait qu'un duc d'Effroc s'était noyé au pied de ce mur. L'eau, en effet, y était assez profonde pour un duc. À mer basse, il y avait encore 6 bonnes brasses. L'excellence de ce petit mouillage attirait les navires de mer, et la vieille panse de Hollande, dite la Vaugrate, venait s'amarrer à l'Effrocstone. La Vaugrate faisait directement une fois par semaine la traversée de Londres à Rotterdam et de Rotterdam à Londres. D'autres coches partaient deux fois par jour, soit pour Deptford, soit pour Greenwich, soit pour Gravesend, descendant par une marée et remontant par l'autre. Le trajet jusqu'à Gravesend, quoique de 20 miles, se faisait en 6 heures. La Vaugrate était d'un modèle qu'on ne voit plus aujourd'hui que dans les musées de marine. Cette panse était un peu une jonque. En ce temps-là, pendant que la France copiait la Grèce, la Hollande copiait la Chine. La Vaugrate, lourde coque à deux mâts, était cloisonnée étanche perpendiculairement, avec une chambre très creuse au milieu du bâtiment, et deux tillacs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, pontés ras, comme les vaisseaux de fer à tourelles d'aujourd'hui, ce qui avait l'avantage de diminuer la prise du flot sur le navire dans les gros temps, et l'inconvénient d'exposer l'équipage aux coups de mer, à cause de l'absence de parapet. Rien n'arrêtait au bord celui qui allait tomber. De là, de fréquentes chutes et des pertes d'hommes qui ont fait abandonner ce gabarit. La pose Vaugrate allait droit en Hollande et ne faisait même pas escale à Gravesend. Une antique corniche de pierre, roche autant que maçonnerie, longeait le bas de l'Effrocstone et, praticable à toute mer, facilitait l'abord des bateaux amarrés au mur. Le mur était de distance en distance coupé d'escaliers. Il marquait la pointe sud de Southwark. Un remblai permettait aux passants de s'accouder au haut de l'Effrocstone, comme au parapet d'un quai. De là, on voyait la Tamise. De l'autre côté de l'eau, Londres cessait. Il n'y avait plus que des champs. En amont de l'Effrocstone, au coude de la Tamise, presque vis-à-vis le palais de St. James, derrière Lambeth House, non loin de la promenade appelée alors Foxhall, Vauxhall probablement, il y avait entre une poterie où l'on faisait de la porcelaine et une verrerie où l'on faisait des bouteilles peintes, un de ces terrains vagues où l'herbe pousse, appelés autrefois en France cultures et mails, et en Angleterre, Bowling Greens. De Bowling Green, tapis vert à rouler une boule, nous avons fait boulingrin. On a aujourd'hui ce prélat dans sa maison. Seulement, on le met sur une table. Il est en drap au lieu d'être en gazon. Et on l'appelle billard. Du reste, on ne voit pas pourquoi, ayant boulevard, boule vert, qui est le même mot que bowling green, nous nous sommes donné boulingrin. Il est surprenant qu'un personnage grave comme le dictionnaire ait de ces luxes inutiles. Le bowling green de Southwark s'appelait Tarinzo Field, pour avoir appartenu jadis au baron Hastings, qui sont baron Tarinzo and Mauchline. Des Lord Hastings, le Tarinzo Field avait passé au Lord Tadcaster, lesquels l'avaient exploité en lieu public, ainsi que plus tard un duc d'Orléans a exploité le palais royal. Puis le Tarinzo Field était devenu vaine pâture et propriété paroissiale. Le Tarinzo Field était une sorte de champ de foire permanent, encombré d'escamoteurs, d'équilibristes, de battleurs et de musique sur des tréteaux, et toujours plein d'imbéciles qui viennent regarder le diable, comme disait l'archevêque Sharpe. Regarder le diable, c'est aller au spectacle. Plusieurs inns qui prenaient et envoyaient du public à ces théâtres forains s'ouvraient sur cette place fériée toute l'année et y prospéraient. Ces inns étaient de simples échoppes, habitées seulement le jour. Le soir, le tavernier mettait dans sa poche la clé de la taverne et s'en allait. Un seul de ces inns était une maison. Il n'y avait pas d'autre logis dans tout le Bowling Green, les baraques du champ de foire pouvant toujours disparaître d'un moment à l'autre, vu l'absence d'attache et le vagabondage de tous ces saltimbanques. Les battleurs ont une vie déracinée. Cette inn, appelée l'Inn Tadcaster, du nom des anciens seigneurs, plutôt auberge que taverne, et plutôt hôtellerie qu'auberge, avait une porte cochère et une assez grande cour. La porte cochère, ouvrant de la cour sur la place, était la porte légitime de l'auberge Tadcaster, et avait à côté d'elle une porte bâtarde par où l'on entrait. Qui dit bâtarde, dit préféré. Cette porte basse était la seule par où l'on passa. Elle donnait dans le cabaret proprement dit, qui était un large galetas enfumé, garni de tables et bas de plafond. Elle était surmontée d'une fenêtre au premier étage, aux ferrures de laquelle était ajustée et pendue l'enseigne de l'inn. La grande porte, barrée et verrouillée à demeure, restait fermée. Il fallait traverser le cabaret pour entrer dans la cour. Il y avait dans l'Inn Tadcaster un maître et un boy. Le maître s'appelait Maître Nicless. Le boy s'appelait Govicombe. Maître Nicless, Nicolas sans doute, qui devient par la prononciation anglaise Nicless, était un veuf avare et tremblant et ayant le respect des lois. Du reste, poilu aux sourcils et sur les mains. Quant au garçon de 14 ans qui versait à boire et répondait au nom de Govicombe, c'était une grosse tête joyeuse avec un tablier. Il était tondu ras, signe de servitude. Il couchait au rez-de-chaussée, dans un réduit où l'on avait jadis mis un chien. Ce réduit avait pour fenêtre une lucarne ouvrant sur le Bowling Green. Chapitre 2. Éloquence en plein vent. Un soir qu'il faisait grand vent et assez froid, et qu'on avait toutes les raisons du monde de se hâter dans la rue, un homme qui cheminait dans le Tarinzo Field, sous le mur de l'auberge Tadcaster, s'arrêta brusquement. On était dans les derniers mois de l'hiver de 1704 à 1705. Cet homme, dont les vêtements indiquaient un matelot, était de bonne mine et de belle taille, ce qui est prescrit aux gens de cour et n'est pas défendu aux gens du peuple. Pourquoi s'était-il arrêté? pour écouter. Qu'écoutait-il? Une voix qui parlait probablement dans une cour, de l'autre côté du mur. Voix un peu sénile, mais pourtant si haute qu'elle venait jusqu'aux passants dans la rue. En même temps, on entendait, dans l'enclos où la voix pérorait, un bruit de foule. Cette voix disait « Hommes et femmes de Londres, me voici. Je vous félicite cordialement d'être anglais. Vous êtes un grand peuple. Je dis plus, vous êtes une grande populace. Vos coups de poing sont encore plus beaux que vos coups d'épée. Vous avez de l'appétit. Vous êtes la nation qui mange les autres. Fonction magnifique. Cette succion du monde classe à part l'Angleterre. Comme politique et philosophie, émaniement des colonies, population et industrie, et comme volonté de faire aux autres du mal qui est pour soi du bien. Vous êtes particuliers et surprenants. Le moment approche où il y aura sur la terre deux écriteaux. Sur l'un, on lira « Côté des hommes », sur l'autre, on lira « Côté des Anglais ». Je constate ceci à votre gloire, moi qui ne suis ni anglais ni homme, ayant l'honneur d'être un docteur. Cela va ensemble. Gentlemen, j'enseigne. Quoi ? Deux espèces de choses, celles que je sais et celles que j'ignore. Je vends des drogues et je donne des idées. Approchez et écoutez. La science vous y convie. Ouvrez votre oreille. Si elle est petite, elle tiendra peu de vérité. Si elle est grande, beaucoup de stupidité y entrera. Donc, attention. J'enseigne la pseudodoxia epidemica. J'ai un camarade qui fait rire. Moi, je fais penser. Nous habitons la même boîte, le rire étant d'aussi bonne famille que le savoir. Quand on demandait à Démocrite « Comment savez-vous ? » Il répondait « Je ris. » Et moi, si l'on me demande « Pourquoi riez-vous ? » Je répondrai « Je sais. » Du reste, je ne ris pas. Je suis le rectificateur des erreurs populaires. J'entreprends le nettoyage de vos intelligences. Elles sont malpropres. Dieu permet que le peuple se trompe et soit trompé. Il ne faut pas avoir de pudeur bête. J'avoue franchement que je crois en Dieu, même quand il a tort. Seulement, quand je vois des ordures, les erreurs sont des ordures, je les balaie. Comment sais-je ce que je sais ? Cela ne regarde que moi. Chacun prend la science comme il peut. Lactance faisait des questions à une tête de Virgile en bronze qui lui répondait. Sylvestre, II, dialoguait avec les oiseaux. Les oiseaux parlaient-ils ? Le pape gazouillait-il ? Question. L'enfant mort du rabbin Éléazar causait avec saint Augustin. Entre nous, je doute de tous ces faits, excepté du dernier. L'enfant mort parlait, soit, mais il avait sous la langue une lame d'or où étaient gravées diverses constellations. Donc, il trichait. Le fait s'explique. Vous voyez ma modération. Je sépare le vrai du faux. Tenez, voici d'autres erreurs que vous partagez sans doute, pauvres gens du peuple, et dont je désire vous dégager. Dioscoride croyait qu'il y avait un dieu dans la Jusquiame. Chrysippe dans le Sinopaste. Joseph dans la racine borasse. Homère dans la plante molie. Tous se trompaient. Ce qui est dans ces herbes, ce n'est pas un dieu, c'est un démon. Je l'ai vérifié. Il n'est pas vrai que le serpent qui tenta Ève eût, comme Gadmus, une face humaine. Garcia de Horto, Gadamosto et Jean Hugo, archevêque de Trèves, nient qu'il suffise de scier un arbre pour prendre un éléphant. J'incline à leur avis. Citoyens, les efforts de Lucifer sont la cause des fausses opinions. Sous le règne d'un tel prince, il doit paraître des météores d'erreur et de perdition. Peuple, Claudius Pulcher, ne mourut pas parce que les poulets refusèrent de sortir du poulailler. La vérité est que Lucifer, ayant prévu la mort de Claudius Pulcher, prit soin d'empêcher ces animaux de manger. Que Belzébuth ait donné à l'empereur Vespasien la vertu de redresser les boiteux et de rendre la vue aux aveugles en les touchant, c'était une action louable en soi, mais dont le motif était coupable. Gentlemen, défiez-vous des faux savants qui exploitent la racine de brioine et la couleuvrée blanche, et qui font des collyres avec du miel et du sang de coq. Sachez voir clair dans les mensonges. Il n'est point exact qu'Orion soit né d'un besoin naturel de Jupiter. La vérité est que ce fut Mercure qui produisit cet astre de cette façon. Il n'est pas vrai qu'Adam eut un nombril. Quand Saint-Georges a tué un dragon, il n'avait pas près de lui la fille d'un saint. Saint-Jérôme, dans son cabinet, n'avait pas sur sa cheminée une pendule. Premièrement, parce qu'étant dans une grotte, il n'avait pas de cabinet. Deuxièmement, parce qu'il n'avait pas de cheminée. Troisièmement, parce que les pendules n'existaient pas. Rectifions, rectifions. Oh, gentil qui m'écoutez. Si l'on vous dit que quiconque flaire l'herbe valériane, il lui naît un lézard dans le cerveau, que dans sa putréfaction le bœuf se change en abeille et le cheval en frelon, que l'homme pèse plus mort que vivant, que le sang de bouc dissout l'émeraude, qu'une chenille, une mouche et une araignée aperçues sur le même arbre annoncent la famine, la guerre et la peste, qu'on guérit le mal caduc au moyen d'un ver qu'on trouve dans la tête du chevreuil. N'en croyez rien, ce sont des erreurs. Mais voici des vérités. La peau de veau marin garantit du tonnerre. Le crapaud se nourrit de terre, ce qui lui fait venir une pierre dans la tête. La rose de Jéricho fleurit la veille de Noël. Les serpents ne peuvent supporter l'ombre du frêne. L'éléphant n'a pas de jointure et est forcé de dormir debout contre un arbre. Faites couver par un crapaud un œuf de coq. Vous aurez un scorpion qui vous fera une salamandre. Un aveugle recouvre la vue en mettant une main sur le côté gauche de l'autel et l'autre main sur ses yeux. La virginité n'exclut pas la maternité. Braves gens, nourrissez-vous de ces évidences. Sur ce, vous pouvez croire en Dieu de deux façons, ou comme la soif croit à l'orange, ou comme l'âne croit au fouet. Maintenant, je vais vous présenter mon personnel. Ici, un coup de vent assez violent secoua les chambranles et les volets de l'Inn, qui était une maison isolée. Cela fit une espèce de long murmure céleste. L'orateur attendit un moment, puis reprit le dessus. Interruption. Soit. Parle, Aquilon. Gentlemen, je ne me fâche pas. Le vent est loquace, comme tous les solitaires. Personne ne lui tient compagnie là-haut. Alors, il bavarde. Je reprends mon fil. Vous contemplez ici des artistes associés. Nous sommes quatre. À Lupo Principium, je commence par mon ami qui est un loup. Il ne s'en cache pas. Voyez-le. Il est instruit, grave et sagace. La Providence a probablement eu un moment l'idée d'en faire un docteur d'université. Mais il faut pour cela être un peu bête. Et il ne l'est pas. J'ajoute qu'il est sans préjugés et point aristocrate. Il cause dans l'occasion avec une chienne, lui qui aurait droit à une louve. Ses dauphins, s'il en a eu, mêlent probablement avec grâce le jappement de leur mère au hurlement de leur père. Car il hurle, il faut hurler avec les hommes. Il aboie aussi par condescendance pour la civilisation. Adoucissement magnanime. Homo est un chien perfectionné. Vénérons le chien. Le chien. Quelle drôle de bête. a sa sueur sur sa langue et son sourire dans sa queue. Gentlemen, homo égal en sagesse et surpasse en cordialité le loup sans poil du Mexique, l'admirable Xoloitzeniski. J'ajoute qu'il est humble. Il a la modestie d'un loup utile aux humains. Il est secourable et charitable, silencieusement. Sa patte gauche ignore la bonne action qu'a faite sa patte droite. Tels sont ses mérites. De cet autre, mon deuxième ami, je ne dis qu'un mot. C'est un monstre. Vous l'admirerez. Il fut jadis abandonné par des pirates sur les bords de l'océan. Celle-ci est une aveugle. Est-ce une exception ? Non, nous sommes tous des aveugles. L'avare est un aveugle. Il voit l'or et ne voit pas la richesse. Le prodigue est un aveugle. Il voit le commencement et ne voit pas la fin. La coquette est une aveugle. Elle ne voit pas ses rides. Le savant est un aveugle. Il ne voit pas son ignorance. L'honnête homme est un aveugle. Il ne voit pas le coquin. Le coquin est un aveugle. Il ne voit pas Dieu. Dieu est un aveugle. Le jour où il a créé le monde, il n'a pas vu que le diable se fourrait dedans. Moi, je suis un aveugle. Je parle et je ne vois pas que vous êtes des sourds. Cet aveugle-ci qui nous accompagne est une prêtresse mystérieuse. Vesta lui eut confié son tison. Elle a dans le caractère des obscurités douces comme les hiatus qui s'ouvrent dans la laine d'un mouton. Je la crois fille de roi, sans l'affirmer. Une louable défiance est l'attribut du sage. Quant à moi, je ratiocine et je médicamente. Je pense et je pense. Chirurgus sum, je guéris les fièvres, miasmes et pestes. Presque toutes nos phlegmasies et souffrances sont des exutoires et, bien soignées, nous débarrassent gentiment d'autres maux qui seraient pires. Nonobstant, je ne vous conseille pas d'avoir un anthrax, autrement dit carbuncle. C'est une maladie bête qui ne sert à rien. On en meurt, mais c'est tout. Je ne suis pas inculte ni rustique. J'honore l'éloquence et la poésie, et je vis avec ces déesses dans une intimité innocente. Et je termine par un avis. Gentlemen, gentlewomen, en vous, du côté d'où vient la lumière, cultivez la vertu, la modestie, la probité, la justice et l'amour. Chacun ici-bas peut, comme cela, avoir son petit pot de fleurs sur sa fenêtre. Milords et messieurs, j'ai dit, le spectacle va commencer. L'homme, matelot probable, qui écoutait du dehors, entra dans la salle basse de l'île, la traversa, paya quelques monnaies qu'on lui demanda, pénétra dans une cour pleine de public, aperçut au fond de la cour une baraque à roues toute grande ouverte, et vit sur ce tréteau un homme vieux vêtu d'une peau d'ours, un homme jeune qui avait l'air d'un masque, une fille aveugle et un loup. « Vive Dieu ! » s'écria-t-il. « Voilà d'admirables gens !» Chapitre 3. Où le passant reparaît. La Gwynbox, on vient de la reconnaître, était arrivée à Londres. Elle s'était établie à Southwark. Ursus avait été attiré par le Bowling Green, lequel avait cela d'excellent, que la foire n'y chômait jamais, pas même en hiver. Voir le dôme de Saint-Paul avait été agréable à Ursus. Londres, à tout prendre, est une ville qui a du bon. Avoir dédié une cathédrale à Saint-Paul, c'est de la bravoure. Le vrai saint cathédrale est Saint-Pierre. Saint-Paul est suspect d'imagination, et en matière ecclésiastique, imagination signifie hérésie. Saint-Paul n'est saint qu'avec des circonstances atténuantes. Il n'est entré au ciel que par la porte des artistes. Une cathédrale est une ancienne. Saint-Pierre indique Rome, la ville du dogme. Saint-Paul signale Londres, la ville du schisme. Ursus, dont la philosophie avait de si grands bras qu'elle contenait tout, était homme à apprécier ses nuances, et son attrait pour Londres venait peut-être d'un certain goût pour Saint-Paul. La grande cour de Lynn Tedcaster avait fixé le choix d'Ursus. La Green Box semblait prévue par cette cour. C'était un théâtre tout construit. Cette cour était carrée et bâtie de trois côtés, avec un mur faisant vis-à-vis aux étages et auquel on adossa la Green Box, introduite grâce aux vastes dimensions de la porte cochère. Un grand balcon de bois, couvert d'un auvent et porté sur poteau, lequel desservait les chambres du premier étage, s'appliquait sur les trois pans de la façade intérieure de cette cour, avec deux retours en équerre. Les fenêtres du rez-de-chaussée firent les baignoires, le pavé de la cour fit le parterre, et le balcon fit le balcon. La Green Box, rangée contre le mur, avait devant elle cette salle de spectacle. Cela ressemblait beaucoup au globe où furent joués Othello, le roi Lear et la tempête. Dans un recoin, en arrière de la Green Box, il y avait une écurie. Ursus avait pris ses arrangements avec le tavernier, maître Nicless, qui, vu le respect des lois, n'admit le loup qu'en payant plus cher. L'écriteau, Gwynplaine, l'homme qui rit, décroché de la Green Box, avait été accroché près de l'enseigne de Lynn. La salle cabaret avait, on le sait, une porte intérieure qui donnait sur la cour. À côté de cette porte fut improvisée, au moyen d'un tonneau éventré, une logette pour la buraliste, qui était tantôt Phoebe, tantôt Vinos. C'était à peu près comme aujourd'hui. Qui entre, paix. Sous l'écriteau « L'homme qui rit » fut pendue à deux clous une planche peinte en blanc, portant charbonné en grosses lettres le titre de la grande pièce d'Ursus. Chaos vaincu. Au centre du balcon, précisément en face de la Green Box, un compartiment, qui avait pour entrée principale une porte-fenêtre, avait été réservé entre deux cloisons pour la noblesse. Il était assez large pour contenir sur deux rangs 10 spectateurs. « Nous sommes à Londres, » avait dit Ursus. « Il faut s'attendre à de la gentry. » Il avait fait meubler cette loge des meilleures chaises de Lynn et placer au centre un grand fauteuil de velours d'Utrecht à boutons d'or à dessin cerise pour le cas où quelque femme d'Alderman viendrait. Les représentations avaient commencé. Tout de suite, la foule vint. Mais le compartiment pour la noblesse resta vide. À cela près, le succès fut tel que de mémoire de saltimbanque, on n'en avait pas vu de pareil. Tout Southwark accourut en cohue admirer l'homme qui rit. Les baladins et battleurs de Tarrinzofield furent effrayés de Gwynplaine. Un épervier s'abattant dans une cage de chardonneret et leur becquetant leurs mangeoires. Tel fut l'effet. Gwynplaine leur dévora leur public. Outre le menu peuple des avaleurs de sabres et des grimaciers, il y avait sur le Bowling Green de vrais spectacles. Il y avait un circus à femmes retentissant du matin au soir d'une sonnerie magnifique de toutes sortes d'instruments. Psaltérion, tambour, rubèbe, micamon, timbre, chalumel, dulcane, guingue, chevrette, cornemuse, cornet d'Allemagne, essa quelle d'Angleterre, pipe, fistule, flageot et flageolet. Il y avait sous une large tente ronde des sauteurs, qui n'eussent point égalé nos coureurs actuels des Pyrénées, Dulma, Bordenave et Melonga, lesquels, du pic de Pierrefitte, descendent au plateau du Limençon, ce qui est presque tombé. Il y avait une ménagerie ambulante où l'on voyait un tigre bouffe qui, foyé par un belluaire, tâchait de lui happer son fouet et d'en avaler la mèche. Ce comique à gueule et à griffes fut lui-même éclipsé. Curiosité, applaudissements, recettes, foule. L'homme qui rit prit tout. En un clin d'œil, ce fut fait. Il n'y eut plus que la Greenbox. Chaos vaincu est chaos vainqueur, disait Ursus, se mettant la moitié dans le succès de Gwynplaine et tirant la nappe à lui, comme on dit en langue cabotine. Le succès de Gwynplaine fut prodigieux. Pourtant, il resta local. Passer l'eau est difficile pour une renommée. Le nom de Shakespeare a mis 130 ans à venir d'Angleterre en France. L'eau est une muraille. Et si Voltaire, ce qu'il a bien regretté plus tard, n'avait pas fait à Shakespeare la courte échelle, Shakespeare, à l'heure qu'il est, serait peut-être encore de l'autre côté du mur, en Angleterre, captif d'une gloire insulaire. La gloire de Gwynplaine ne passa point le pont de Londres. Elle ne prit point les dimensions d'un écho de grande ville, du moins dans les premiers temps. Mais Southwark peut suffire à l'ambition d'un clown. Ursus disait « La sacoche des recettes, comme une fille qui a fait une faute, grossit à vue d'œil. » On jouait Ursus Russus, puis chaos vaincu. Dans les entr'actes, Ursus justifiait sa qualité d'angastrimite et faisait de la ventriloquie transcendante. Il imitait toute voix qui s'offrait dans l'assistance. Un chant, un cri, à ébahir par la ressemblance le chanteur ou le crieur lui-même. Et parfois, il copiait le brouhaha du public. Et il soufflait comme s'il eût été à lui seul un tas de gens. Talent remarquable. En outre, il haranguait, on vient de le voir, comme Cicéron, vendait des drogues, soignait les maladies et même guérissait les malades. Southwark était captivé. Ursus était satisfait des applaudissements de Southwark, mais il n'en était point étonné. « Ce sont les anciens trinobantes, disait-il. Et il ajoutait « Que je ne confonds point, pour la délicatesse du goût, avec les atrobates qui ont peuplé Berx, les Belges qui ont habité le Somerset et les Parisiens qui ont fondé York. » À chaque représentation, la cour de Lynn, transformée en parterre, s'emplissait d'un auditoire déguenillé et enthousiaste. C'étaient des bateliers, des porte-chaises, des charpentiers de bord, des cochers de coches de rivière, des matelots frais débarqués dépensant leur solde en ripailles et en filles. Il y avait des estafiers, des ruffians et des gardes noirs qui sont des soldats condamnés pour quelques fautes disciplinaires à porter leur habit rouge retourné du côté de la doublure noire et nommés pour cela « Black Quartz », d'où nous avons fait « Blagueur ». Tout cela affluait de la rue dans le théâtre et refluait du théâtre dans la salle à boire. Les chopes bues ne nuisaient pas au succès. Parmi ces gens qu'on est convenu d'appeler « la lie », il y en avait un plus haut que les autres, plus grand, plus fort, moins pauvre, plus carré d'épaule, vêtu comme le commun du peuple, mais pas déchiré, admirateur à tout rompre, se faisant place à coups de poing, ayant une perruque à la diable, jurant, criant, gouaillant, point malpropre, et au besoin pochant un œil et payant bouteille. Cet habitué était le passant dont on a entendu tout à l'heure le cri d'enthousiasme. Ce connaisseur, immédiatement fasciné, avait tout de suite adopté l'homme qui rit. Il ne venait pas à toutes les représentations, mais quand il venait, il était le traîneur du public. Les applaudissements se changeaient en acclamations. Le succès allait, non aux frises, il n'y en avait pas, mais aux nus, il y en avait. Mais ces nus, vu l'absence de plafond, pleuvaient quelquefois sur le chef-d'œuvre d'Ursus. Si bien qu'Ursus remarqua cet homme et que Gwynplaine le regarda. C'était un fier ami inconnu qu'on avait là. Ursus et Gwynplaine voulurent le connaître, ou du moins savoir qui c'était. Ursus, un soir, de la coulisse, qui était la porte de la cuisine de la Green Box, ayant par hasard maître Nicless, l'hôtelier, près de lui, lui montra l'homme mêlé à la foule et lui demanda « Connaissez-vous cet homme ?»«
Sans doute. »«
Qu'est-ce ?»« Un matelot. »«
Comment s'appelle-t-il » dit Gwynplaine, intervenant.
« Tom Jim Jack, » répondit l'hôtelier. Puis, tout en redescendant l'escalier marche-pied de l'arrière de la Green Box pour rentrer dans l'île, maître Nicless laissa tomber cette réflexion, profonde à perte de vue.
« Quel dommage qu'il ne soit pas lord! Ce serait une fameuse canaille !»
Du reste, quoique installé dans une hôtellerie, le groupe de la Green Box n'avait rien modifié de ses mœurs et maintenait son isolement. À cela près de quelques mots échangés çà et là avec le tavernier, il ne se mêlait point aux habitants, permanents ou passagers, de l'auberge, et il continuait de vivre entre eux. Depuis qu'on était à Southwark, Gwynplaine avait pris l'habitude, après le spectacle, après le souper des gens et des chevaux, d'aller, pendant qu'Ursus et Dea se couchaient, chacun de son côté, respirer un peu le grand air dans le Bowling Green entre 11 heures et minuit. Un certain vague qu'on a dans l'esprit pousse aux promenades nocturnes et aux flâneries étoilées. La jeunesse est une attente mystérieuse. C'est pourquoi on marche volontiers la nuit, sans but. À cette heure-là, il n'y avait plus personne dans le champ de foire. Tout au plus quelques tribulations d'ivrognes faisant des silhouettes chancelantes dans les coins obscurs. Les tavernes vides se fermaient, la salle basse de l'auberge Tadcaster s'éteignait, ayant à peine dans quelque angle une dernière chandelle éclairant un dernier buveur. Une lueur indistincte sortait entre les chambranles de lignes entr'ouverts, et Gwynplaine, pensif, content, songeant, heureux d'un divin bonheur trouble, allait et venait devant cette porte entrebâillée. À quoi pensait-il ?
À Dea.
À rien. À tout. Aux profondeurs. Il s'écartait peu de l'auberge, retenu, comme par un fil, près de Dea. Faire quelques pas dehors lui suffisait. Puis il rentrait, trouvait toute la Green Box endormie, et s'endormait. Chapitre 4. Les contraires fraternisent dans la haine. Le succès n'est pas aimé, surtout par ceux dont il est la chute. Il est rare que les mangés adorent les mangeurs. L'homme qui rit, décidément, faisait événement. Les bateleurs d'alentour étaient indignés. Un succès de théâtre est un siphon, pompe la foule et fait le vide autour de lui. La boutique en face était perdue. À la hausse des recettes de la Green Box avait tout de suite correspondu, nous l'avons dit, une baisse dans les recettes environnantes. Brusquement, les spectacles, jusqu'alors fêtés, chômèrent. Ce fut comme un étiage se marquant en sens inverse, mais avec une concordance parfaite, la crue, ici, la diminution, là. Tous les théâtres connaissent ces effets de marée. Elle n'est haute chez celui-ci qu'à la condition d'être basse chez celui-là. La fourmilière foraine, qui exhibait ses talents et ses fanfares sur les tréteaux circonvoisins, se voyant ruinée par l'homme qui rit, entra en désespoir, mais fut éblouie. Tous les grimes, tous les clowns, tous les battleurs enviaient Gwynplaine. En voilà un qui est heureux d'avoir un mufle de bête féroce. Des mères baladines et danseuses de cordes, qui avaient de jolis enfants, les regardaient avec colère en montrant Gwynplaine et en disant « Quel dommage que tu n'aies pas une figure comme cela !» Quelques-unes battaient leurs petits de fureur de les trouver beaux. Plus d'une,
si elle eût su le secret, eût arrangé son fils à la Gwynplaine.
Une tête d'ange qui ne rapporte rien ne vaut pas une face de diable lucrative.
On entendit un jour la mère d'un petit, qui était un chérubin de gentillesse et qui jouait les cupidons, s'écrier
« On nous a manqué, nos enfants! Il n'y a que ce Gwynplaine de réussi !»
Et montrant le poing à son fils, elle ajouta
« Si je connaissais ton père, je lui ferais une scène !»
Gwynplaine était une poule aux œufs d'or. Quel merveilleux phénomène! Ce n'était qu'un cri dans toutes les baraques. Les saltimbanques, enthousiasmés et exaspérés, contemplaient Gwynplaine en grinçant des dents. La rage, admire, cela s'appelle l'envie. Alors, elle hurle. Ils essayèrent de troubler Chaos vaincu, firent cabale, sifflèrent, grognèrent, huèrent. Cela fut pour Ursus un motif de harangue hortensienne à la populace. Et pour l'ami Tom Jim Jack, une occasion de donner quelques-uns de ses coups de poing qui rétablissent l'ordre. Les coups de poing de Tom Jim Jack achevèrent de le faire remarquer par Gwynplaine et estimé par Ursus. De loin, du reste, car le groupe de la Gwynbox se suffisait à lui-même et se tenait à distance de tout. Et quant à Tom Jim Jack, ce leader de la canaille faisait l'effet d'une sorte d'estafier suprême, sans liaison, sans intimité, casseur de vitres, meneur d'hommes, paraissant, disparaissant, camarade de tout le monde et compagnon de personne. Ce déchaînement d'envie contre Gwynplaine ne se tint pas pour battu, pour quelques gifles de Tom Jim Jack. Les huées ayant avorté, les saltimbanques du Tarrinzofield rédigèrent une supplique. Ils s'adressèrent à l'autorité. C'est la marche ordinaire. Contre un succès qui nous gêne, on ameute la foule, puis on implore le magistrat. Au battleur se joignirent les révérends. L'homme qui rit avait porté coup au prêche. Le vide ne s'était pas fait seulement dans les baraques, mais dans les églises. Les chapelles des 5 paroisses de Southwark n'avaient plus d'auditoire. On délaissait le sermon pour aller à Gwynplaine. Chaos vaincu, la Gwynbox, l'homme qui rit, toutes ces abominations de Baal l'emportaient sur l'éloquence de la chair. La voix qui harangue dans le désert, Vox clamantis in deserto, n'était pas contente et adjure volontiers le gouvernement. Les pasteurs des saintes paroisses se plaignirent à l'évêque de Londres, lequel se plaignit à Sa Majesté. La plainte des battleurs se fondait sur la religion. Ils la déclaraient outragée. Ils signalaient Gwynplaine comme sorcier et Ursus comme impie. Les révérends, eux, invoquaient l'ordre social. Ils prenaient fait et cause pour les actes du Parlement violés, laissant l'orthodoxie de côté. C'était plus malin. Car on était à l'époque de M. Locke, mort depuis 6 mois à peine, le 28 octobre 1704. Et le scepticisme que Bolingbroke allait insuffler à Voltaire commençait. Wesley devait plus tard venir restaurer la Bible, comme Loyola a restauré le papisme. De cette façon, la Gwynbox était battue en brèche des deux côtés, par les battleurs au nom du Pentateuque, par les chapelains au nom des règlements de police. D'une part le ciel, d'autre part la voirie, les révérends tenant pour la voirie et les saltimbanques pour le ciel. La Gwynbox était dénoncée par les prêtres comme encombrante et par les baladins comme sacrilège. Y avait-il prétexte? Donnait-elle prise? Oui. Quel était son crime? Ceci. Elle avait un loup. Un loup en Angleterre est un proscrit. Le dog, soit, le loup, point. L'Angleterre admet le chien qui aboie. Et non le chien qui hurle.
nuance entre la basse-cour et la forêt. Les recteurs et vicaires des 5 paroisses de Southwark rappelaient dans leurs requêtes les nombreux statuts royaux et parlementaires mettant le loup hors la loi. Ils concluaient à quelque chose comme l'incarcération de Gwynplaine et la mise en fourrière du loup, ou tout au moins l'expulsion. Question d'intérêt public, de risque pour les passants, etc. Et là-dessus, il faisait appel à la faculté. Il citait le verdict du Collège des 80 médecins de Londres, corps docte qui date de Henri VIII, qui a un sceau, comme l'État, qui élève les malades à la dignité de justiciables, qui a le droit d'emprisonner ceux qui enfreignent ses lois et contreviennent à ses ordonnances, et qui, entre autres constatations utiles à la santé des citoyens, a mis hors de doute ce fait acquis à la science. Si un loup voit un homme le premier, l'homme est enroué pour la vie. De plus, on peut être mordu. Donc, homo était le prétexte. Ursus, par l'hôtelier, avait vent de ses menées. Il était inquiet. Il craignait ces deux griffes, police et justice. Pour avoir peur de la magistrature, il suffit d'avoir peur. Il n'est pas nécessaire d'être coupable. Ursus souhaitait peu le contact des shérifs, prévôts, baillis et coronaires. Son empressement de contempler de près ces visages officiels était nul. Il avait de voir des magistrats la même curiosité que le lièvre de voir des chiens d'arrêt. Il commençait à regretter d'être venu à Londres. « Le mieux est ennemi du bien, » murmurait-il en aparté. « Je croyais ce proverbe déconsidéré, mais j'ai eu tort. Les vérités bêtes sont les vérités vraies. » Contre tant de puissances coalisées, saltimbanques prenant en main la cause de la religion, chapelains s'indignant au nom de la médecine, la pauvre Gwyn Box, suspecte de sorcellerie en Gwynplaine et d'hydrophobie en homo, n'avait pour elle qu'une chose, mais qui est une grande force en Angleterre, l'inertie municipale. C'est du laisser-faire local qu'est sortie la liberté anglaise. La liberté en Angleterre se comporte comme la mer autour de l'Angleterre. C'est une marée. Peu à peu, les mœurs montent sur les lois. Une épouvantable législation engloutie, l'usage dessus, un code féroce encore visible sous la transparence de l'immense liberté. C'est là l'Angleterre. L'homme qui rit, chaos vaincu, homo, pouvait avoir contre eux les battleurs, les prédicants, les évêques, la chambre des communes, la chambre des lords, sa majesté, et Londres, et toute l'Angleterre, et rester tranquille tant que Southwark serait pour eux. La Gwyn Box était l'amusement préféré du faubourg, et l'autorité locale semblait indifférente. En Angleterre, indifférence, c'est protection. Tant que le shérif du comté de Surrey, à qui ressortit Southwark, ne bougerait pas, Ursus respirait, et Homo pouvait dormir sur ses deux oreilles de loup. À la condition de ne point aboutir au coup de pouce, ses haines servaient le succès. La Gwyn Box, pour l'instant, ne s'en portait pas plus mal. Au contraire, il transpirait dans le public qu'il y avait des intrigues. L'homme qui rit en devenait plus populaire. La foule a le flair des choses dénoncées et les prend en bonne part. Être suspect recommande. Le peuple adopte d'instinct ce que l'index menace. La chose dénoncée, c'est un commencement de fruits défendus. On se hâte d'y mordre. Et puis un applaudissement qui taquine quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un est l'autorité, c'est doux. Faire, en passant d'une soirée agréable, acte d'adhésion à l'opprimé et d'opposition à l'oppresseur, cela plaît. On protège en même temps qu'on s'amuse.
Ajoutons que les baraques théâtrales du Bowling Green continuaient de huer et de cabaler contre l'homme qui rit. Rien de meilleur pour le succès. Les ennemis font un bruit efficace qui aiguise et avive le triomphe. Un ami est plus vite las de louer qu'un ennemi d'injurier. Injurier n'est pas nuire. Voilà ce que les ennemis ignorent. Ils ne peuvent pas ne point insulter, et c'est là leur utilité. Ils ont une impossibilité de se taire qui entretient l'éveil public. La foule grossissait chaos vaincu. Ursus gardait pour lui ce que lui disait maître Nicless, des intrigues et des plaintes en haut lieu, et n'en parlait pas à Gwynplaine, pour ne point troubler la sérénité des représentations par des préoccupations. S'il arrivait malheur, on le saurait toujours assez tôt. Chapitre 5. Le Weapon Take. Une fois pourtant, il crut devoir déroger à cette prudence, par prudence même, et il jugea utile de tâcher d'inquiéter Gwynplaine. Il est vrai qu'il s'agissait d'une chose beaucoup plus grave encore, dans la pensée d'Ursus, que les cabales de foire et d'église. Gwynplaine, en ramassant un farthing tombé à terre dans un moment où le comte et la recette, s'était mis à l'examiner, et en présence de l'hôtelier, avait tiré du contraste entre le farthing, représentant la misère du peuple, et l'empreinte représentant, sous la figure d'âne, la magnificence parasite du trône. Un propos malsonnant. Ce propos, répété par maître Nicless, avait fait tant de chemin qu'il était revenu à Ursus par Phoebe et Vinos. Ursus en eut la fièvre. Paroles séditieuses, lèse majesté. Il admonesta rudement Gwynplaine. Veille sur ton abominable gueule. Il y a une règle pour les grands, ne rien faire. Et une règle pour les petits, ne rien dire. Le pauvre n'a qu'un ami, le silence. Il ne doit prononcer qu'un monosyllabe. Oui. Avouer et consentir, c'est tout son droit. Oui au juge, oui au roi. Les grands, si bon leur semble, nous donnent des coups de bâton. J'en ai reçu. C'est leur prérogative. Et ils ne perdent nullement de leur grandeur en nous rompant les os. L'ossifrage est une espèce d'aigle. Vénérons le sceptre, qui est le premier des bâtons. Respect, c'est prudence. Et platitude, c'est égoïsme. Qui outrage son roi se met en même danger qu'une fille coupant témérairement la jupe à un lion. On m'informe que tu as jasé sur le compte du farthing, qui est la même chose que le liard, et que tu as médit de cette médaille auguste, moyennant laquelle on nous octroie au marché le demi-quart d'un hareng salé. Prends garde! Deviens sérieux. Apprends qu'il existe des punitions. Imprègne-toi des vérités législatives. Tu es dans un pays où celui qui scie un petit arbre de 3 ans est paisiblement mené au gibet. Les jureurs ont leur mis les pieds au cep. L'ivrogne est enfermé dans une barrique défoncée par en bas pour qu'il marche, avec un trou en haut du tonneau par où passe sa tête, et 2 trous dans la bonde par où passent ses mains, de sorte qu'il ne peut se coucher. Qui frappe quelqu'un dans la salle de Westminster est en prison pour sa vie, et c'est bien confisqué. Qui frappe quelqu'un dans le palais du roi a la main droite tranchée. Une chiquenaude sur un nez qui saigne, et te voilà manchot. Le convaincu d'hérésie en cour d'évêque est brûlé vif. C'est pour pas grand-chose que Godbert Simpson a été écartelé au tourniquet. Voilà 3 ans, 1702, ce n'est pas loin, comme tu vois. On a tourné au pilori un scélérat appelé Daniel Defoe, lequel avait eu l'audace d'imprimer les noms des membres des communes qui avaient parlé la veille au Parlement. Celui qui est félon à sa majesté, on l'éventre vivant et on lui arrache le cœur dont on lui souffle la clé de joue. Inculque-toi ces notions de droit et de justice. Ne jamais se permettre un mot. Et, à la plus petite inquiétude, prendre sa volée. Telle est la bravoure que je pratique et que je te conseille. En fait de témérité, imite les oiseaux. Et en fait de bavardage, imite les poissons. Du reste, l'Angleterre a cela d'admirable que sa législation est fort douce. » Son admonition faite, Ursus fut inquiet quelque temps. Gwynplaine, point. L'intrépidité de la jeunesse se compose de défauts d'expérience. Toutefois, il sembla que Gwynplaine avait eu raison d'être tranquille, car les semaines s'écoulèrent pacifiquement et il ne parut pas que le propos sur la reine eût des suites. Ursus, on le sait, manquait d'apathie et, comme le chevreuil au guet, était en éveil de tous les côtés. Un jour, peu de temps après sa semonce à Gwynplaine, en regardant par la lucarne du mur qu'il avait vu sur le dehors, Ursus devint pâle. « Gwynplaine !»«
Quoi ?»«
Regarde !»«
Où ?»«
Dans la place !»«
Et puis ?»«
Vois-tu ce passant ?»«
Cet homme en noir ?»«
Oui !»
Qui a une espèce de masse au poing ?
Oui.
Eh bien,
Gwynplaine, cet homme est le Wapentake.
Qu'est-ce que c'est que le Wapentake ?
C'est le bailli de la Centaine.
Qu'est-ce que c'est que le bailli de la Centaine ?
C'est le Praepositus Undredi.
Qu'est-ce que c'est que le Praepositus Undredi ?
C'est un officier terrible.
Qu'est-ce qu'il a à la main ?
C'est l'Iron Weapon.
Qu'est-ce que l'Iron Weapon ?
C'est une chose en fer.
Et qu'est-ce qu'il fait de ça ?
D'abord, il jure dessus, et c'est pour cela qu'on l'appelle le Weapon Take.
Ensuite ?
Ensuite, il vous touche avec.
Avec quoi ?
Avec l'Iron Weapon.
Le Weapon Take vous touche avec l'Iron Weapon ?
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire « suivez-moi ».
Et il faut le suivre ?
Oui.
Où ?
Est-ce que je sais, moi ?
Mais il vous dit où il vous mène ?
Non.
Mais on peut bien le lui demander.
Non.
Comment ?
Il ne vous dit rien et vous ne lui dites rien.
Mais...
il vous touche de l'Iron Weapon, tout est dit, vous devez marcher.
Mais où ?
Derrière lui.
Mais où ?
Où bon lui semble, Gwynplaine.
Et si l'on résiste,
on est pendu.
Ursus remit la tête à la lucarne, respira largement et dit
« Dieu merci, le voilà passé, ce n'est pas chez nous qu'il vient. »
Ursus s'effrayait probablement plus que de raison des indiscrétions et des rapports possibles au sujet des paroles inconsidérées de Gwynplaine. Maître Nicless, qui les avait entendues, n'avait aucun intérêt à compromettre les pauvres gens de la Gwynbox. Il tirait latéralement de l'homme qui rit une bonne petite fortune. K.O. vaincu avait deux réussites. En même temps qu'il faisait triompher l'art dans la Gwynbox, il faisait prospérer l'ivrognerie dans la taverne.